grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Cette semaine, comme je vous l'ai annoncé la semaine passée, nous allons écouter la suite de la bande sonore du film Place désignée, qui a été réalisé par l'association Les Iconophages. Et ce film montre les difficultés qu'ont les gens du voyage à conserver leur mode de vie nomade. Et avant, nous allons nous réjouir les oreilles avec la guitare de Paco de Lucía.
Thank you. Moi, je pense que les mères, ils aiment pas trop voir rêver, c'est même pas pour eux, parce que nous, on connaît beaucoup de mères qui sont très gentilles. Mais par rapport à leur électorat, ils ont toujours peur des préjugés, de ne pas repasser. Il y a des gens, on sent qu'ils sont pas contents parce qu'ils ne nous connaissent pas, il y a un petit peu de jalousie peut-être.
Il y a des chefs d'entreprise là, vous le savez. Mmh. Qui ont des villas et tout ailleurs. Hein. Alors qu'est-ce que c'est ces comptes-là? C'est pas des pauvres gens. Hein. Vous regarderez le moindre convoi, vous avez plus de 100 000 euros entre le fourgon et la caravane, tout est ultra moderne là-dedans. Hein. Ils ont des groupes électrogènes, ils ont même des mini-pelles pour ouvrir les passages maintenant. Qui suivent. Je vois comme ils sont équipés. Hein. Ne croyez pas, c'est pas des mendiants. Hein. C'est pas des mendiants du tout. Ou ils prennent de l'argent, je ne sais pas.
La classe moyenne de nous, c'est pas la classe moyenne des autres. Hein. Que des sédentaires, je veux dire. La classe moyenne de nous, c'est d'avoir une caravane, une voiture. La classe moyenne des sédentaires, c'est une maison. Une caravane, ça vaut 15 000 euros. Une maison, ça vaut 150 000. Donc c'est pas pareil. Hein. Et ils perdent pas sur leur maison. Hein. Nous, on perd tout à chaque fois. Hein. À chaque fois, on remet. Vous achetez une maison en 10 millions, je vous donne un chiffre comme ça au hasard. Hein. Mettons, pour vous dire un prix, mettons 50 000 euros, ils vont la gagner quelques années, ils vont la vendre 150 000. Nous, on achète une caravane 15 000 euros, vous la gagnez quelques années, ils vont toucher 2 000. Donc, on est toujours en train de remettre. Hein. Le problème qu'il y a, c'est que les médias, ils font toujours le. Ils parlent toujours quand il y a un problème. Ce genre de voyage, ça en fait un film terrible. Mais quand ils font des belles choses, ils n'en parlent jamais.
Mariotte, elle est une gentille femme, hein, elle a fabule toujours un peu, quoi. Les gamins qui ont demandé si le poney était à vendre, ça peut se demander ça.
Ouais.
On m'a dit, ouais, ils m'ont demandé l'année dernière, elle pleurait, elle a sa jument derrière là. Elle pleurait, ils sont venus, ils vont me la voler. J'ai dit, mais non, ils ne la voleront pas. Si allez, tu la mets ici, comme ça tu dormiras tranquille. Ils volent pas une bête là sur place. Hein. Moi, depuis des années qui viennent, il ne m'a jamais rien manqué. Hein.
Ben, la population ne lui va pas arriver d'une gaieté de cœur. Bon, je vais pas vous tenir la langue de bois. Hein. Alors, c'est vrai qu'après, il y a tout un aspect qui est lié aux gens du voyage, avec tout ce que ça peut comporter dans la, disons, dans la mémoire collective ou socialement. On a cette difficulté à gérer. Mais bon, il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de confrontation entre les populations, mais c'est vrai que c'est quand même mal vécu par les gens. Parce qu'en plus, ils ne comprennent pas, si vous voulez, que la force prime le droit. On a là une intervention... Alors vous allez me dire, mais le droit n'est pas respecté de l'autre côté aussi. C'est-à-dire le droit n'est pas respecté de la part des maires qui doivent faire des aires d'aménagement. Mais on est le cul entre deux chaises, quoi.
Et aujourd'hui, en tout cas dans l'Hérault, il y a pas mal de communes qui n'ont pas pu respecter leur délai et qui n'ont plus droit à aucune subvention de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, l'État, voyant que ses crédits réservé pour la création des aires d'accueil n'était pas utilisé par les collectivités, eh bien l'a attribué à d'autres usages.
À l'époque, si vous voulez, il y a un petit peu plus de 10 ans en arrière, je venais régulièrement dans ces coins-là, mais les aires, si vous voulez, les parkings où stationner étaient plus faciles, les communes étaient plus raisonnables, plus gentilles entre guillemets, donc ça se fait qu'ils toléraient très bien. Mais maintenant, puisque les lois sont renforcées, puisque les communes sont assignées, et qu'ils ne le font pas, ils barricadent tout. À notre départ, il est quadrillé, quoi. On ne peut plus s'y mettre, c'est fini.
Ils font comment?
Alors, ils tractopèlent, bulldozer, cailloux, bétonnage, sillon. Ils sillonnent maintenant beaucoup. Alors, comme en plus, au point de vue pénal, par rapport aux amendes, s'ils n'ont pas fait l'aire d'accueil, c'est une bouchée de pain. Donc, ils préfèrent payer l'amende que de faire l'emplacement prévu. C'est comme par rapport aux logements sociaux, c'est pareil, c'est le même dilemme.
Exactement.
Mais en attendant, on vit quand même. On peut pas, en attendant d'une aire d'accueil, par exemple, dans une commune qu'elle n'y est pas, on peut pas s'accrocher à un palmier et attendre qu'elle apparaisse. Il faut bien qu'on s'assure en attendant. Mais le tort qu'il y a, c'est qu'il rejette trop la faute sur les autres communes. C'est-à-dire, si on atterrit dans une commune, la commune, on va avoir affaire à un adjoint ou au maire, peu importe, on va dire, mais allez à la commune voisine, pourquoi vous n'avez pas vareuse? Non, parce que j'ai décidé de venir vers vous. Et puis c'est l'une à l'autre qui se projette à moi.
On n'a que ça à leur proposer, quoi. C'est plus la logique. Enfin, voilà, la réalité, c'est quand même plus ça, quoi. On est là, bon, bah, je sais, ça correspond pas. Je sais, et la plupart des voyageurs, maintenant, de toute façon, connaissent ce terrain, et ils refusent de venir le voir, quoi, parce que c'est sûr. Quoi.
Donc ce terrain, il n'est jamais utilisé?
Cet été, il n'a pas été utilisé.
Pas une seule fois?
Non. À ma connaissance, il n'a pas été utilisé une seule fois. C'est un scandale, c'est vrai. Ils ne comprennent pas, en plus, même en préfecture, les gens qui travaillent dans les bureaux, qui... Enfin, c'est... Enfin, voilà, moi, j'essaye d'expliquer par A plus B, mais au bout d'un moment, il faut venir voir la réalité sur le terrain, hein, pour comprendre, quoi.
J'ai écrit un article dans le journal du village où je disais que c'était un peu le bal des faux culs et des hypocrites. Parce que j'ai l'impression que tout le monde... on est ravis quand c'est dans la commune voisine qu'il y a l'accueil des gens du voyage. Et tout le monde semble être ravi, que ce soit l'État, que ce soit les autres collectivités territoriales, à la mesure où c'est pas sur sa commune... c'est très bien, on n'en parle pas. Alors qu'en fait, on ne prend pas le taureau par les cornes et on n'essaie pas d'aboutir à des réalisations et d'avoir une véritable politique d'accueil des gens des voyages et au-delà, après, des étrangers, ce qui est encore autre chose.
Il nous avait dit que c'était pour tout le temps. Et puis un coup qu'on a rentré avec les caravanes, ils nous ont fait signer un contrat qu'on avait le droit de rester que 2 ans. Et au bout de 2 ans, ils nous chercheraient des appartements, tout ça. Mais bon, on n'était pas trop d'accord. Mais nous, quand on a vu l'eau, le courant, tout ça, on a dit bon, ça va améliorer notre vie. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on recherchait.
Pour répondre aux problématiques de sédentarisation des gens du voyage, la loi Besson prévoit dans ses annexes la possibilité de mettre à disposition ce qu'on appelle des terrains familiaux. En tout cas, dans l'Hérault, on dispose à Pignan d'un terrain familial type équipement public où les familles sont signataires d'un bail. Enfin, elles sont sous-locataires, en fait.
Ce sont des, tels qu'ils ont été conçus, des éléments facilitant un peu ce passage vers le logement social en dur. Sur ce plan-là, au bout de 3 ans, bientôt 4 ans, ça n'a pas été nécessairement une grande réussite. Pour moi, globalement, c'est quand même quelque chose de positif, puisqu'on a quand même créé des conditions de vie de ces personnes-là, qui étaient précédemment dans la campagne, qui avaient des conditions sanitaires, des conditions sociales, très difficile, il faut quand même le reconnaître. On leur a donné, sur ce plan-là, la possibilité de vivre mieux, de vivre dans des conditions sanitaires et sociales beaucoup plus adaptées.
On ne pourra même pas mettre une petite table.
Vas-y, rentre, on va manger très tard. Ça va en mettre avec lui, je vais
la faire parler. Ouais, on appelle ça.
Ben oui,
un enclos pour les chevaux. C'est un enclos.
C'est bien qu'il y a un enclos, oui.
C'est une honte, ça, qu'ils ont fait. Mais oui, Nat, c'est une honte.
Alors ça qui me met à bout, c'est quand je vois dans le village, à 2 pas de chez nous, ils passent les camions pour nettoyer les rues, tout ça, et quand on leur demande pour nous de venir faire ça sur le terrain, parce qu'on voit que vraiment c'est sale, le goudron c'est nous alors qu'ils payent le loyer, mais c'est nous qui gaspillent des tonnes et des tonnes d'eau pour nettoyer le goudron.
À rapport les voisins trop collés avec nous, à rapport les cuisines, ça va pas, c'est trop petit. Salle de bain, l'hiver on peut pas prendre les douches parce qu'il fait trop froid, il y a la glace dedans. Les toilettes, il y a plus de place dans les toilettes que dans les cuisines. Alors, il n'y avait rien qui allait pour nous, ça allait pas.
Parce que même quand on était dans des champs ou comme ici, on s'en sortait bien parce qu'on avait chacun notre intimité. Donc si Patty, elle avait sa caravane là, moi j'avais la mienne là-bas, l'autre là-bas. On avait quand même, et là on est collés, donc ça ne nous convient pas du tout. Tout ce qui se passe chez moi, ben, tout le monde est au courant, quoi. On ne peut plus rien faire chez nous sans penser à être observé constamment 24 heures sur 24.
Chez nous, en fait, on n'est pas chez nous. On est plutôt chez le voisin et le voisin chez moi que chez nous.
Les familles sont déçues par rapport à ce à quoi elles s'attendaient, puisqu'en gros, elles se retrouvent dans un équipement dont le fonctionnement est collectif. Elles se retrouvent en collectivité. Or, elles étaient en attente d'une solution pérenne de relogement, une certaine forme de relogement, un relogement qui prendrait en compte l'habitat, leur habitat, qui est l'habitat caravane.
Pour nous, il nous faut l'air, la nature, il faut que les places de goudron, tout ça, ça ne va pas pour nous. Nous, on ne peut pas vivre comme ça. Bon, y en a qui peuvent, hein, mais moi, je sais que pour moi, moi, je vois pour moi, mais toute ma vie, vivre sur des camps comme ils ont fait à Pignan, je m'y vois pas. Je peux pas. Qui nous laisse vivre notre vie comme on a toujours vécu. On a toujours vécu comme ça. C'est pas maintenant à 40 ans qu'ils veulent nous mettre dans des camps ou dans des appartements. C'est fini maintenant pour nous. Voilà, moi j'ai grandi comme ça et je resterai comme ça. Hein. Ça pourra être la plus belle maison. Et...
C'est vrai, c'est comme ça,
c'est clair et net. Hein.
Et ce qui crée, entre guillemets, le ghetto, c'est l'absence de choix. On est dans un ghetto dès lors qu'on n'a plus la possibilité de sortir de l'endroit où on est.
Ils n'ont pas le droit de nous renfermer dans des appartements. On n'est pas des bêtes. Ils nous obligent à nous mettre dans des appartements. Et nous, on ne veut pas. On ne veut pas. C'est notre vie de vivre dehors. C'est comme ça, c'est pas autrement.
Merci la poulette. Eh oh, les toits, bouche couchée. Va-t'en, je t'en veux plus, Lalilalo, va-t'en, on sur la campine,
Partout où on allait, les gendarmes ils nous font partir. Et j'ai cotisé pendant des années. Et quand j'ai eu là une petite somme, que j'ai eu l'occasion, eh bien, je me suis acheté ce terrain.
Et mon but à moi aussi, c'était de me poser un jour, d'acheter mon terrain comme Patty et de pouvoir scolariser mes enfants. Pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas eu cette chance-là d'aller à l'école. J'ai traîné à droite à gauche dans les écoles, un jour là, un jour là-bas. Et bien, résultat, aujourd'hui, je ne sais même pas lire, même pas écrire. Donc on essaye toujours de ne pas faire vivre la même misère à nos enfants que nous, on a vécu.
Est-ce que tu as un terrain quelque part ? Est-ce que tu
Oui, j'ai un terrain au Mans. Ouais. Mais c'est une sapinière et on ne peut rien faire dessus. Ça va arriver, mais pour l'instant, on ne peut rien faire.
Il y en a qui ont des terrains, qui achètent des terrains, bon bien entendu, pas des terrains constructibles, c'est trop cher, des terrains agricoles, ils mettent leur caravane, ils n'ont pas le droit. Et là aussi, il ne faut pas qu'il y ait les caravanes. S'ils ont un terrain constructible, qu'ils ont une maison, il ne faut pas qu'il y ait de caravane non plus, on fait comment? Ou alors on n'a pas le droit d'y rester dessus. Ou alors ils ne veulent pas nous brancher.
Même si on achetait un terrain qui était constructible, on a quand même besoin de notre envie de voyager. Donc, de toute façon, même si on mettait nos caravanes là-bas, on aurait quand même un arrêté préfectoral nous disant qu'on a un temps imparti qu'il faudra sortir au bout de tant de temps. Donc, à quoi ça sert qu'on achète des terrains ? Qu'ils soient pas chers ou qu'ils soient chers, qu'ils soient constructibles ou non constructibles, qu'ils soient de loisirs ou pas de loisirs, du moment qu'on met des caravanes ou qu'on met un mobilhome, ça coince. On a des gros, gros problèmes là-dessus. Donc après, ils veulent qu'on se sédentarise. On ne peut pas se sédentariser. On ne peut pas. On ne peut pas parce qu'ils nous mettent toujours une barrière quelque part. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On n'a pas le droit de mettre nos caravanes plus de temps en temps. On n'a pas le droit de mettre un mobilhome parce que ça ne va pas. On n'a le droit de rien. Donc je ne vois pas pourquoi on va se crever à acheter des terrains. Ça ne sert à rien.
Et dans la petite caravane où qu'on est, vous faites quoi ici ?
Je fais cuire, je mange. Et dans l'autre, c'est pour eux, hein, mettons, dormir, parler avec les femmes, regarder la télé, être au lit, mettre des pyjamas, des trucs comme ça. Et le casibi, ça sert pour se garaver, si, mettons, on tombe, pour se changer, pour se doucer, pour se laver les mains.
Et dans la journée, alors, tu vas plutôt dans la grande caravane ou dans la petite campine ?
Dans la petite campine. Vous avez une lumière en dehors. Viens voir.
Attends, c'est elle ?
Ouais.
Elle est allumée aujourd'hui, c'est que pour la nuit, non ?
Oui, mais c'est moi pour te présenter comment elle s'allume.
D'accord.
C'est fini ?
Ouais.
Alors, c'était beau ?
faudrait qu'on construise des maisons et qu'on vende nos caravanes et qu'on voyage plus. Mais ça, c'est pas possible. C'est mon mode de vie. Et le jour où ils auront compris ça, ben, ils auront compris beaucoup de choses. Mais je crois qu'il va encore passer énormément d'années avant qu'ils comprennent quelque chose.
Parce qu'il s'agit d'un groupe social, dont je prétends qu'il s'agit d'une civilisation, quel que soit le terme qu'on donne à ce groupe social, moi j'appelle ça une ethnie. Mais non pas une ethnie au sens des magazines et de la vulgarisation, mais au sens de la définition politique du mot ethnie, réellement. Ça veut dire que c'est un peuple sans État, une ethnie. Il y a 400 millions d'êtres humains sur la Terre qui sont un peuple sans État. Nous disent les anthropologues, tous les groupes humains ne se sont pas tous regroupés sur les mêmes modalités d'être ensemble. Les Français ont suivi une histoire d'au moins 2000 ans pour se constituer en État. Mais les Roms, eux, ils ont suivi une autre voie. Ils ne se sont pas constitués en État comme les Indiens du Chiapas, comme les Inuits, comme 400 millions d'êtres humains sur la Terre. Ils se sont constitués en société sans État. Et il y a donc un heurt. La société avec État entend mater et faire disparaître tout ce qui ne lui ressemble pas. C'est-à-dire qu'il y a là un apprentissage, une alphabétisation qui doit être dispensée aux responsables des sociétés avec État pour qu'ils comprennent qu'il existe des sociétés sans État qui sont tout aussi légitimes qu'eux et qui ont le droit à la vie sur la Terre. C'est uniquement pour ça qu'on les rejette tout le temps. Mais comme en même temps ils vivent dans les pays occidentaux depuis des siècles et des siècles, ils ont la possibilité de jouer sur les deux tableau. Et pour peu qu'il ne revendique pas son identité culturelle, sociale et politique, et qu'il accepte celle de la domination, il sera un citoyen quidam. Mais si par malheur il entend vivre à sa façon, selon sa civilisation, sa culture, ses croyances, ses pensées, ses pratiques, alors il n'aura pas le droit de le faire dans une société unie, culturelle, monoculturelle.
C'est vrai que vouloir sédentariser les gens du voyage, ça va pas. Parce que ça, qu'est-ce que ça peut donner à un gens du voyage sédentarisé? On lui enlève sa vie.
C'est-à-dire pendant les vacances, pour aller chiner comme on le fait chez nous, on bouge, on va dans l'Aveyron, on va dans la Lozère, on va où notre vie est plus facile à gagner qu'ici.
Vous savez, là, le voyage, c'est le témoin de la liberté. Le jour qu'on voyagera plus, ça voudra dire que vous êtes plus un pays libre. Tant qu'on voyage, moi je pense que c'est un signe de liberté. Pas qu'ils l'enlèvent. Parce qu'il faut bien qu'ils se disent, les sédentaires pensent toujours que c'est pour nous. Mais la liberté qu'ils enlèvent à nous, ils enlèvent la leur aussi. Hein.
Il nous faut avoir en tête et se souvenir de cette double possibilité d'être Rom, d'être citoyen, et ce qu'ils réclament, c'est d'être des citoyens Rom.
Ce qu'ils veulent, c'est avoir les mêmes droits que les autres qui vivent dans le pays. C'est ça le truc. C'est ne pas être rejeté, ne pas être considéré comme un rien. Parce que c'est pas des chiens.
On a tout qui justifie qu'on veut s'intégrer. Mais c'est eux qui refusent ça. Pourquoi c'est encore du racisme, ça? Alors qu'on nous donne nos droits. On veut que notre dû, en fait, là-dedans, nous. C'est tout.
Nikona Janel, Katar Oroma Avde, Kanastar Savore, Slamen Roma Vicine.
Nikona Janel, Katar Oroma Avde, Kanastar Savore, Slamen Roma Vicine. Nikona Janel, Katar Oroma Avde, Kanastar Savore, Slamen Roma Vicine. Oggi mi preparo per un perché. Yeah.
Eh bien voilà, j'espère que cette écoute vous aura fait prendre conscience des difficultés que rencontrent les gens du voyage pour continuer à vivre leur mode de vie. Mais avant de passer à l'au revoir, j'aimerais vous faire un cadeau musical, ou je vais me faire un cadeau musical, en vous faisant entendre celui qui, pour moi, est le plus grand chanteur gitan. On l'appelle le père des Gypsy Kings, parce que un certain nombre de ses fils font ou sont à l'origine de ce groupe. C'est le grand José Reyes.
La clara del día que me comprenda, lo verá lo que te digo y tan mía. Siempre tú te vas de la vera mía, ya verá lo que tú sientes y tan mismo que me ha dado, no tenía conciencia y amor, los besos que a mí me da. Oh, 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 oh.
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais vous souhaiter la tchodrome. Et comme d'habitude, je vais vous lire deux textes sur le générique de fin. Il s'agit de deux textes de Jean-Marie Kervisch. Le premier a pour titre « Le vrai gitan » et le deuxième aura pour titre « La solution ». Je connais un poète qui sait rire à plein cœur. Il est le vrai gitan, heureux comme un enfant adopté par le vent. Moi, j'ai perdu le goût du bonheur. J'ai trop vu ce vieux soleil ridé. Les pas de mes phrases sont lents. Ce sont des phrases sans domicile fixe. La poussière de la rue est seule à me comprendre. On m'accuse d'avoir écrit que Dieu existe. Il paraît que c'est un crime grave. On me dit qu'il est de mauvais goût d'écrire sur Dieu aujourd'hui. Mais comment écrire sur autre chose quand il est l'écriture même? Mes poèmes sont de vrais hommes aux manches retroussées qui n'ont peur de personne. Je sais que si, soufflés par une brise hasardeuse, ils entraient dans une célèbre maison d'édition, bons ou mauvais, les livres qui s'y trouvent se dévêtiraient de leur gloire pour suivre ces feuillets nomades. Je ne suis pas poète et le gitan non plus. Nous sommes des mots errants qui vont dans le sens des vérités, ces vérités qui craignent d'être détruites par la puissance immonde de l'argent. L'évangile du gitan est brutal. C'est un évaluateur des sentiments d'autrui. Sa sensibilité est sévère car la souffrance l'a trop meurtri. Moi, je me perds dans les entrailles de ma pensée. Je me cogne contre mon cœur. Je le dérange dans sa méditation. Le gitan penseur, voilà ma solution. Il va penser et écrire à ma place. Je sauterai sur une de ses pensées. Je m'accrocherai à sa plume. Puis je me laisserai tomber sur la page avec une goutte d'encre sous ses yeux noirs. Il me relèvera. C'est ainsi, c'est une continuité, un passé dont la peinture est encore fraîche sur les murs de mon désespoir. »